œil d'asile. Œil d'asile, programme radiophonique du groupe Mégaphone, réalisé par les jeunes réfugiés du YIF en collaboration avec le HCR, Plan International et le CIRTEF. Œil d'asile, à la découverte du monde des réfugiés par les réfugiés.
Bonjour, je m'appelle Helen Goh. Vous écoutez l'émission Œil d'asile. Cette émission est très spéciale parce que c'est fait pour la Journée mondiale du réfugié qu'on célèbre le 20 juin. Dans cette émission, nous allons parler avec les jeunes réfugiés qui étaient sur le terrain et qui ont réalisé des reportages. Il faut dire qu'ils sont des reporters amateurs. À travers cette expérience, pas mal d'entre eux veulent être journalistes. Communicateur. Donc, Mabel, elle a eu à faire son reportage à l'extrême nord, précisément à Minawao. Ça parle du reboisement de ce camp de réfugiés.
Sous un soleil ardent, une tempête de sable avec des vents violents ravage tout sur son passage. C'est le quotidien des populations de l'extrême nord Cameroun, porte d'entrée du désert. Avec l'arrivée massive des réfugiés dans cette partie du pays et installés dans le camp de Minawao, on note une forte diminution de la forêt dans cette zone au fil des années.
Ézéchiel Kodi, environnementaliste.
Ici, il y avait plein d'arbres. À l'espace de 8 ans, tout est devenu désert. Il n'y a plus d'arbres. À perte de vue.
La cause, c'est la pression des réfugiés. Y compris celle de la population sur le couvert végétal.
Lucas Isaac, président des réfugiés nigériens au camp de Minawao.
Si on compte environ 60 000 réfugiés qui vivent en un seul endroit, comment les ressources naturelles seront-elles réparties? Il y aura certainement une dispute pour les ressources existantes. Par exemple, vous avez de l'eau, des aliments. Comment faire cuire ces aliments? On ne va pas faire un miracle. On ira couper le bois et les faire cuire. Voilà la vraie raison pour laquelle nous avons détruit la forêt.
Avant, les réfugiés s'approvisionnaient à moins de 2 km, mais aujourd'hui, c'est à plus de 18 km. Et parcourir 18 km, c'est presque passer toute la journée.
Lucas Isaac, président des réfugiés nigériens au camp de Minawao.
Il y a une dernière fois que nos femmes, nos enfants sont partis en brousse pour chercher des voies et ils sont violés. Pour chercher de l'eau, en communauté haute aussi, c'est un problème.
Il y a le phénomène d'érosion qui est irréversible. S'il n'y a pas le couvert végétal, la pluviométrie serait irrégulière. Et ça s'observe déjà dans la région. Nous voyons aussi le changement climatique, le réchauffement. Et si les gens continuent à détruire les arbres, ça sera une catastrophe écologique qu'on va observer d'ici quelques années.
Le camp a été créé le 2 juillet 2013. Après le constat de la disparition de la forêt entre 2013 et 2014, nous, réfugiés, avons eu cette idée de reboiser les endroits vers fin 2015 jusqu'à nos jours.
Ils ont constaté qu'ils ne peuvent plus supporter la chaleur qu'il y a au camp. Ils ont exposé le problème au HCR et même l'État. Ils ont commencé par 500 plants, 5 000, 50 000. Les espèces que nous mettons en terre ici, nous avons le Sena leucocephala, Acacia radiana, Acacia nilotica, et nous avons aussi Albizia pour ne citer que cela. À côté du reboisement, nous avons mis en place la production du charbon écologique. Nous avons formé plus de 5000 ménages. Et ces ménages formés forment aussi d'autres ménages. Et aussi, nous distribuons des foyers améliorés qui consomment moins du combustible par rapport aux foyers traditionnels. Et le plaidoyer que nous faisons, c'est collecter le fonds auprès des bailleurs de fonds afin de restaurer ce sol.
Aujourd'hui, vous pouvez voir la verdure partout. La nature est redevenue verte. Avant, ce n'était pas ainsi.
Nous sommes en compagnie de l'un des réfugiés qui a réalisé cette émission en radio, Mabel, qui a été sur le terrain. Bonjour Mabel.
Bonjour Hélène.
Qui tu es et ce que tu fais?
Je suis Kouradim Mabel, de nationalité centrafricaine, réfugiée au Cameroun depuis 2003. Je suis étudiante à l'IRIC en cycle master.
D'un point de vue vraiment personnel, qu'est-ce que tu as vu quand tu étais sur le terrain à Minawao?
Sur le terrain à Minawao, j'ai constaté que les réfugiés prennent conscience. Ils prennent conscience pourquoi? Parce qu'ils ont détruit l'environnement. Ils ont pris conscience que détruit n'était pas bien et ils se sont mis à reboiser l'environnement. Et c'est ça qui était tellement touchant.
En tant que réfugié urbain, est-ce qu'il y avait des choses que tu as reconnues en eux? Ou est-ce que tu as été surpris de voir comment ils vivent là-bas?
Sur le terrain, à Minawao, il est bien vrai, nous sommes tous des réfugiés. Mais eux là-bas, les problèmes qu'ils vivent là-bas, ce n'est pas pareil que les problèmes que nous, en milieu urbain, nous vivons. Il y a certains qui veulent retourner au pays, tout en sachant qu'il n'y a pas encore vraiment de la stabilité, mais eux, ils veulent retourner. Moi, par contre, c'est le contraire. Je ne veux pas encore retourner parce que je ne sais pas l'avenir. Parmi tant d'autres problèmes, il y a encore d'autres problèmes peut-être de santé et autres. Si je peux aussi souligner le problème de l'éducation, ils disent que là-bas, eux-mêmes, ils s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Par contre, ici, nos enfants bénéficient quand même de l'éducation.
Merci beaucoup, ma belle. Au retour, nous allons en parler avec un autre réfugié qui a réalisé un reportage qui parle aussi de la vie quotidien des autres réfugiés.
Aujourd'hui, réponse Covid au milieu scolaire.
Je me présente d'abord, mon nom c'est Mbom. Je voudrais savoir comment le Covid est apparu ici, là, dans ce pays, parce que moi, je suis confuse.
Covid vient de Chine, avant de se propager dans n'importe quel pays. Et c'est à travers ça que vous allez voir petit à petit la maladie a commencé à évoluer. Et nous sommes arrivés au stade où nous sommes actuellement.
Audrey Farida Deneam, étudiante centrafricaine résidente au Cameroun depuis 8 ans.
Notre but en fait c'était de sensibiliser les jeunes réfugiés. Mais nous nous rendons compte que le coronavirus n'est pas seulement pour les réfugiés. De ce fait, nous devons sensibiliser tout le monde.
Chargé de communication à plan international Cameroun. Là, par exemple, nous sommes en train de faire le tour des établissements scolaires, certains établissements scolaires de la ville de Douala, pour accompagner ces jeunes réfugiés dans la sensibilisation des enfants sur les mesures barrières liées à la lutte contre la COVID-19.
Et cette pandémie.
Ce sont des établissements qui ont une forte concentration de réfugiés et ça permet à ces réfugiés-là de s'adresser à leurs confrères ou à leurs consoeurs qui se sentent naturellement plus à l'aise et plus réceptifs aux messages qui leur seront passés.
Les différentes possibilités pour attraper cette maladie, c'est lorsque tu es en contact avec une personne qui a été infectée par COVID-19, tu vas commencer à sentir la toux, le maux de tête, également la fièvre.
Amin Mahamat Mokhtar, étudiant centrafricain.
Je réside au Cameroun depuis 7 ans. Et aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour sensibiliser les jeunes réfugiés et les nationaux et leur donner des kits pour qu'ils puissent se protéger.
C'est interdit d'utiliser le même cache-nez que ton ami utilise. Là, c'est pas conseillé. Ok?
Ces différents kits dans chaque établissement sont composés de dispositifs de lavage des mains, de gel hydroalcoolique, de masques stérilisés, de savon, entre autres, qui sont les éléments principaux qui vont permettre à ces enfants de lutter contre la COVID-19.
Monsieur Eyebe Robert, proviseur du lycée de New Bell, Douala.
Mes impressions ne peuvent être bonnes. Je crois que pour cet appui que vous nous donnez aujourd'hui, ça permettra au moins de trouver localement à un multiple problème que nous avons ici. Je pourrais vous dire merci et merci au plan pour cet acte de générosité.
Les objectifs de cette initiative ou de cette mission sont principalement d'éveiller les consciences, de continuer à faire comprendre aux gens que la COVID-19 est toujours présente, elle est toujours au milieu de nous. Donc, continuer à porter le masque, se laver les mains, désinfecter les différentes surfaces dans lesquelles nous travaillons et nous évoluons au quotidien. Donc, on doit se reprendre, recommencer à avoir les bonnes habitudes.
amène à suivre les règles de
virus à au moins de 1 mètre de distance de votre personne. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.
Nous sommes en compagnie d'Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Emmanuel parle aussi de la vie quotidienne des autres réfugiés.
Aujourd'hui, l'intégration socio-économique des réfugiés.
Le Cameroun, terre d'accueil et de convivialité, abrite un très grand nombre de réfugiés. Les villes de Douala et Yaoundé sont leurs plus grands foyers urbains. Arrivés chacun de manière différente et vivant dans des conditions peu similaires, une famille réfugiée dans la ville de Douala raconte son histoire. Monsieur Moukoko Tchaboula Igor, réfugié congolais.
Avec mon épouse, Madame Moukoko, nous m'a d'ampon au Kabibi. On est arrivé au Cameroun comme réfugié depuis l'an 2001. J'ai commencé à faire le manœuvrage dans les chantiers de construction. Je travaillais comme aide-maçon. En 2004, j'étais obligé d'aller travailler avec les Chinois parce que la santé ne me permettait plus de faire les chantiers.
Madame Moukoko Kabibi, réfugiée congolaise.
Pendant que mon mari part aussi se débrouiller à quoi, moi aussi je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je me bats aussi pour élever nos enfants. On est famille, on est avec 5 enfants. Avec nous deux, la charge c'était un peu plus. Je suis partie au HR. J'ai présenté mon projet. On m'a accordé 100 000 francs. J'ai commencé à fabriquer les choupans, le bateau de manioc que vous voyez là.
C'est formidable.
Cet endroit, c'est depuis 2006. Il y a des Congolais, il y a des Camerounais, il y a des Centrafricains.
Je livrais ça partout que je connais que les Centrafricains habitent. Congo Brazza habite, Congo Kinshasa habite. Je marche avec partout. Et moment, j'ai trouvé mon capitaine.
C'était pas facile. Je suis arrivé avec une famille de 2 enfants et la femme était enceinte de 8 mois. En 2008, on s'est décidé que bon, aujourd'hui, on ne doit plus travailler chez les gens, on doit être personnel.
En train de préparer, parce que vous faites du manioc, vous faites des pondous.
D'abord, au pays, j'ai fait l'hôtellerie. J'ai dit que bon, je connais la cuisine congolaise, pourquoi pas que je peux évoluer de ça. Moi, j'ai commencé les 7 restaurants en 2011. Quand on est arrivé en 2018, le 5 août, les feux ont commencé chez le voisin, et jusqu'à ça, m'a pris. Les restaurants brûlés. Mais on a tout perdu. Pas vu l'assurance qu'on peut me rembourser toutes ces dépenses. Quelques jours après, j'ai approché HR, accordé encore de l'argent. Ça a beaucoup nous aidé. Je travaille toujours avec les réfugiés, les Centrafricains, les Congolais, mais il y a aussi mes frères Camerounais.
Dans le cadre des missions du HCR, après obtention du statut de réfugié, on peut désormais bénéficier de certaines assistances.
Nous sommes au Cameroun, nous sommes dans un restaurant congolais, mais tout le monde trouve son compte.
Les employés, je peux dire aujourd'hui, ils peuvent atteindre 20 personnes. Mais ce que je peux donner comme conseil, c'est que celui qui connaît faire quelque chose, qui se base d'abord sur ce qu'il connaît. Si avec le temps tu vois que ça ne va pas, là tu vas comprendre réellement que Dieu ne veut pas que tu fasses ça.
Bon, à mon côté, être réfugié, ce n'est pas seulement que croiser les bras, ne faire rien. Non. Je remercie beaucoup aussi de HR. Je vais beaucoup aider aussi, encourager aussi à ce qu'on fait aujourd'hui.
Bien qu'étant arrivés comme des personnes désespérées, aujourd'hui, ces réfugiés peuvent être heureux de participer au développement de leur pays d'accueil.
Vous écoutez Œil d'Asile, une émission réalisée par le jeune réfugié qui raconte les histoires des réfugiés. Emmanuel, parle-moi un peu de toi.
Je m'appelle Ala Ambe Emmanuel. Je suis réfugié de nationalité tchadienne. Je suis à l'université de Yaoundé de Soa. Je fais une faculté de sciences économiques et de gestion. Je suis au niveau 3 et je suis au Cameroun depuis 2003. Je suis arrivé avec mes parents. Bon.
Parlant de ce reportage que tu as réalisé, pour avoir fait ton parcours de 2003 jusqu'ici, est-ce que ça fait partie de ce qui t'a inspiré d'en parler de l'intégration économique des réfugiés au Cameroun?
En tant que réfugié, je suis dans ce processus d'intégration dans la société, que ce soit sur le plan social ou que ce soit sur le plan économique. Et le fait que je suis allé à la rencontre de mes frères, des réfugiés comme moi, qui sont aussi dans ce processus d'intégration. Bon, c'est de là qu'est venu ce désir de travailler sur ce thème.
Je sais que tu as été à Douala. Qu'est-ce que tu as senti quand tu as vu un réfugié qui a réussi à avoir un business qui marche et qui emploie les gens?
Ça a vraiment été très émouvant et encourageant surtout. La vie s'est montrée très difficile envers lui. Et à ce jour, il est patron. Il mène une vie un peu plus aisée, même que les nationaux. C'est vraiment fort, c'est vraiment fort, c'est vraiment encourageant. Ça me parle à moi-même et je suis convaincu que ça va aussi parler à d'autres réfugiés.
Est-ce qu'il y a dans ça aussi un exemple du vivre ensemble?
Je pense qu'il y a cet exemple de vivre ensemble dans ce sens où il emploie des personnes pour travailler avec lui. Et dans son personnel, il n'y a pas que des personnes étrangères. Il y a des Camerounais qui travaillent avec lui.
Pour ceux qui nous écoutent, que veux-tu qu'ils retiennent de ce reportage que tu as eu à faire?
L'on ne se suffit pas d'abord, quel que soit ton niveau intellectuel, quelle que soit la manière avec laquelle tu es apte à affronter la vie. La vie nous réserve toujours des surprises.
Aujourd'hui, le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains.
Dans cette cour bondée de monde, au loin, on peut entendre l'appel des réfugiés. C'est sur leur demande et après enregistrement auprès du ACR que ces derniers ont choisi de regagner enfin leur pays d'origine. Chaba, réfugiée centrafricaine.
Le rapatriement est la bienvenue et nous avons hâte de rentrer chez nous.
Ousmane Adidia, réfugiée centrafricaine.
Je suis avec mon mari, avec mes enfants ici. Bon, on a décidé de rentrer parce que vous savez bien que la SEA, c'est notre pays. On est là-bas, grandi là-bas, on est habitué là-bas. On est très très content de retourner en Centrafrique.
Olivier Guillaume-Bir, représentant du Haut Commissariat des réfugiés au Cameroun.
En début d'année, nous avons demandé aux réfugiés centrafricains qui voulaient retourner. C'est souvent eux qui viennent nous contacter en premier pour nous dire qu'ils veulent retourner. On fait un sondage pour voir s'il y a plus de personnes. Et puis on enregistre tous ceux qui veulent rentrer. Et ce sont des personnes qui ont souhaité rentrer. Et vous avez vu qu'il y en a d'autres qui ne souhaitent pas encore rentrer maintenant, qui vont peut-être se décider plus tard. C'est un rapatriement volontaire, chacun à son rythme.
Daouda Ali, réfugié centrafricain.
Je suis né en Ersia, grandi là-bas, j'ai famille là-bas. Depuis le début qu'on a commencé d'écrire pour les gens rentrer en Centrafrique, comme moi j'ai écrit, on nous a enregistré. Aujourd'hui on dit viens fais ça, demain viens fais ça, on a fait tout, fait ça. On dit le coronavirus vient arrêter la situation. Là c'est bien sûr, tout le monde connaît, c'est le problème mondial. Pourquoi on ne veut pas nous ramener, on ramène seulement les autres, pourquoi on est en train de nous rouler depuis presque deux ans aujourd'hui, deuxième année.
On ne rapatrie pas des personnes dans des zones qui sont complètement insécurisées et où demain leur vie serait en danger. Il y a des personnes qui savent très bien que chez eux, ils ne peuvent pas rentrer encore maintenant. Ceux qui rentrent maintenant, ce sont ceux qui vont vers des localités qui sont sécurisées.
Amadou Babadi, réfugié centrafricain.
J'ai vécu pendant 7 ans ici dans le site de Gado. Avec la stabilité dans ma région, j'ai choisi de rentrer. Personne ne m'a forcé. Je l'ai fait de ma propre volonté.
Rolf Domia, journaliste centrafricain.
La situation politique de mon pays est en train de se stabiliser. C'est ce que tous les Centrafricains souhaitent en ce moment. Et nous aurons peut-être des hommes forts pour contribuer au développement de notre pays.
Un relais santé du ACR.
Leur suivi sera assuré aussi au niveau de la Centrafrique. C'est une collaboration qui est faite entre le HCR et le district sanitaire de Babwa et de Boire. Parce que ce sont ces districts-là qui couvrent les zones de retour des réfugiés actuellement.
Nous ne pouvons que remercier les autorités camerounaises et le peuple camerounais parce que sans le peuple qui les accueille, ces personnes seraient démunies de tout. Vous avez vous-même participé au départ, vous avez vu qu'il y avait des larmes, les gens ont créé des liens d'amitié. Enfin, nous travaillons avec toute une série de collègues de part et d'autre de la frontière, nous ici, les collègues de la Centrafrique, pour que ce rapatriement puisse avoir lieu.
Donc, ma belle, je vais te demander, quel est ton dernier mot? Ce que tu veux que les gens retiennent de cette émission qui marque la Journée mondiale du réfugié?
Mon dernier mot, c'est qu'ensemble, on peut reboiser, ensemble, on peut reconstruire la nature, ensemble, on peut tout faire. Être réfugié ne veut pas dire que tout est fini. On peut être réfugié et en ayant espoir, on peut devenir quelqu'un demain. Donc, à travers cette émission, mon souhait, c'est que demain, je puisse faire dans ce métier. Et non seulement moi, mais que ce projet puisse également profiter à d'autres réfugiés.
Merci beaucoup, ma belle. Et je finirai avec Emmanuel. Quel est ton dernier message? Quel message veux-tu passer avant la fin de cette émission?
Le message que je veux passer pour la fin de cette émission, c'est déjà un peu comme le thème de cette année nous dit, ensemble on se soigne, ensemble on apprend et on rayonne. Comme nous l'avons écouté dans nos reportages, dans l'un de nos reportages, comment un réfugié parvient à rassembler des personnes de diverses nationalités. Et ce vivre ensemble-là, certainement permet à ces personnes de pouvoir rayonner. Et ce thème tombe à pic. Et ça s'adresse vraiment, pas seulement aux réfugiés, mais à toute l'humanité entière.
Et de pouvoir aider l'un l'autre.
Exactement. Je vais dire merci à d'abord mes frères réfugiés même, qui m'ont facilité le contact avec eux pendant le déroulement du projet. Et surtout aussi un grand merci au HCR qui nous a permis de pouvoir réaliser ces différents reportages dans des meilleures conditions. Et nous n'avons pas aussi oublié Plan. Qui a mis à notre disposition des points focaux pour pouvoir nous encadrer. Et aussi au CIRTEF qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir rendre réel ce rêve.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons aussi remercier la CRTV qui diffuse cette émission pour marquer la Journée mondiale du réfugié. Moi, je suis Helen Go. Merci. Au revoir.
Œil d'asile, émission réalisée par les jeunes déplacés du YIF avec l'appui du HCR, Plan International, collaboration CIRTEF Yaoundé.